Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Fatman à la technique. Oui, c'est l'avant-dernière de la saison. C'est mercredi 22 juin 2022. Bon, ben, la première partie d'émission. Il est avec moi en studio Stéphane Baudry qui va nous faire la récapitulation des différentes chroniques de plein air et loisirs. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à 17h30, je vais recevoir Rebecca Jean, auteur-compositrice, auteur-compositrice, qui va venir nous parler du lancement de son deuxième album qui aura lieu le 29 juin 2022. Alors, bonjour Stéphane Baudry.
Bonjour Fulgence, ça va bien?
Oui, je suis content que tu sois venu en studio pour la dernière de la saison. Pour faire cette récapitulation, on peut l'appeler comme on veut, un résumé ou bien un condensé, une conclusion.
Les coups de cœur.
Les coups de cœur, on peut nommer comme on veut.
Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de chroniques depuis ce temps-là, mais il y en a quelques-unes qui se démarquent. Il y a aussi des chroniques qui étaient sur des endroits ou des loisirs, qui n'existent pas.
Oui.
Plus.
Ouais. Alors, on y va? Pour cette récapitulation, ces coups de cœur que tu nous as concoctés pour nous faire redécouvrir ce qu'on a déjà découvert durant les prochaines 10 minutes, 15 minutes, quoi.
Et surtout, c'est beaucoup d'endroits comme ça, je les avais visités pendant qu'il y avait de la neige, et là maintenant, ils sont rendus, c'est l'été, alors c'est un peu différent aussi.
Oui.
Alors, on parle entre autres du parc régional de la Rivière du Nord.
Oui, je me rappelle.
C'est quand même assez près, c'est dans le coin de Saint-Jérôme. Mm-hmm. Et c'est les canards, ce sont les eaux tumultueuses de la rivière, les sculptures faites de bois de rivage. C'est vraiment un endroit pas loin et qui est vraiment agréable à visiter.
Oui.
On a aussi la réserve naturelle Alfred Kelly.
Oui.
Ça, c'est une vaste réserve naturelle riche en faune et en flore. C'est à moins d'une heure de Montréal. C'est tout près, dans le fond, du parc régional Rivière du Nord. Et c'est gratuit.
Gratuit, il n'y a rien à payer.
Non.
Parce que ça n'appartient pas à cet organisme qu'on appelle ça.
C'est ça, c'est, ça se trouve être privé.
Oui.
Et on peut même aller se promener, il y a des barrages de castors, il y a plein de choses à aller voir de ce côté-là.
À propos castor, je reviens là-dessus parce que je n'en ai jamais vu de ma vie. Quand je vais au... quand je vais sur le parc Mont-Royal, il y a un parc de castors là-bas, je dis, mais où est-ce qu'ils sont les castors?
Ils étaient.
Ils ne sont plus. Mais dis-moi, Stéphane, où est-ce que je peux voir les castors au Québec? Mais en pleine nature.
La réserve naturelle Alfred Kelly.
Là, je peux en...
Oui, il y a des points d'observation.
D'accord. Parce que j'aimerais bien au moins voir comme ça en pleine nature, quoi. Mais il ne suffit pas de me dire, il y a un lac au castor, là, et puis j'arrive, il n'y a rien. C'est vrai, j'étais complètement déçu.
Hein? Oui.
Ouais.
Ah, c'est ça, c'est un lac au castor, mais il n'y a pas de castor.
Il n'y a pas de castor, non, voilà.
Il y a aussi le Mont Sutton. J'aime beaucoup le Mont Sutton.
Oui.
Le secteur payant est intéressant parce qu'il y a quand même la montagne, il y a le Round Top en haut. C'est vraiment une très belle vue.
Oui.
Mais en dehors du secteur payant, il y a la marmite aux sorcières où on peut se baigner, qui est comme une chute qui se jette dans une marmite naturelle de roche.
La marmite aux sorcières.
Oui. Alors, c'est vraiment, ça fait partie du parc Sutton.
Ça n'a rien à voir avec dans l'ancien temps où on tuait les sorcières.
Non,
et puis...
non.
Il y avait une marmite dans laquelle on les jetait, quoi.
Non, pas tout à fait, non. Là, les gens vont se baigner en toute sécurité.
Désolé, mais quand j'entends la marmite aux sorcières, pour moi, bon, ben... Je pense au premier degré, quoi.
C'est comme la rivière du diable, c'est comme...
Voilà, ouais, la rivière du loup, il n'y a pas des loups là-bas qui traînent partout, là.
Il y a aussi le sentier de la rivière Swaggin.
C'était pour rigoler.
Oui, je sais bien.
Ouais.
Le sentier de la rivière Swaggin à Saint-Côme,
oui.
C'est des cascades, c'est des chutes et on suit les cascades pendant un bon bout de temps.
Oui.
Ce qui est intéressant aussi, on peut s'approcher de la chute parce qu'il y a comme des pierres plates.
Oui.
Où est-ce qu'on peut avancer dessus?
Oui.
Alors, c'est vraiment intéressant. Et le haut de la montagne du tranchant, la vue est vraiment spectaculaire aussi.
Oui.
Alors, ça, c'est à Saint-Côme.
Oui.
Et c'est gratuit.
Aussi.
C'est toujours très intéressant aussi.
Ouais. Ah, tu parles du Mont Sutton, là?
Non, je parle de Sentier de la Rivière Soignant.
Sentier de la Rivière Soignant, oui.
À Saint-Côme.
Ouais, Sutton, c'est déjà fini. Voilà, ça,
c'est vraiment bien.
Mm-hmm.
Et le parc de la gorge de Quaticook.
Oh, le fameux parc de Quaticook.
Oui, la gorge de 750 mètres en longueur et ça va jusqu'à 50 mètres en hauteur.
Ouais,
une passerelle suspendue de 169 mètres de long et 50 mètres au-dessus de la gorge.
Ah ouais, moi, j'appelle ça le pont suspendu. Voilà, c'est ouais. C'est passé par là. Effectivement, c'était un très bon. Quand j'entends quoi t'écoutes, je pense à cette passerelle, à ce pont-là, quoi.
Oui, et puis il y a la crème glacée aussi là-bas. Hein.
Stéphane, c'est que j'adore la crème glacée. J'ai déjà acheté ma réserve de thé, là, d'ailleurs, les grosses boîtes là, à l'épicerie, ouais. Là, le congélateur.
Celle aux pistaches est vraiment bonne.
Voilà.
Ouais. Il se trouve aussi avoir fait rester à Lumina dans ce coin-là. Alors, parfois, on peut faire les deux. On peut aller voir le parc de la Gorge et en soirée, on fait Foresta Lumina.
Oui, oui. À propos de crème glacée, il y a une crèmerie sur le. Non loin du parc Marquette, où j'ai découvert la crème au gingembre. Crème glacée au gingembre.
Ah,
ah oui.
Est-ce que c'était bon?
Oui.
OK.
Oui, c'était frais. Mais ça goûtait du gingembre.
OK.
Crème glacée. C'est la première fois que je tombe sur une crèmerie comme ça. Je me suis dit, mais OK, crème glacée au gingembre.
Il va en avoir à tout, hein? Ah, crème oui, glacée oui. Au sushi, au wasabi, à tout.
Non? Ah non, je ne suis pas allé là. OK.
Évidemment, tous ces parcs-là, tous ces endroits-là, il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant quand on va faire du vélo, c'est la route verte.
Oui.
On parle d'un plus vaste itinéraire cyclable en Amérique du Nord avec plus de 5300 kilomètres.
Ah oui, là, c'est quelque chose, hein? Oui.
Alors, quand on veut se promener, on veut profiter un peu et on aime le vélo, c'est vraiment une belle
opportunité.
Ceux qui
ont vraiment envie de faire travailler le muscle.
Ouais.
5300 kilomètres.
Ouais.
Pour un bon cycliste, ça se fait en combien de temps, ça?
Ouais.
Même en voiture, on ne fait pas 5300 kilomètres en une journée. Non. Un bon cycliste, tu peux te taper au moins 1000 à 2000 kilomètres dans la journée.
C'est quand même, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, 5300 kilomètres, c'est beaucoup, ça, il faut le dire. Ouais.
Les endroits aussi intéressants à visiter, c'est l'Expo Rail.
Oui.
C'est le plus grand musée ferroviaire au Canada. On parle de 180 véhicules et 12 000 artefacts.
Oui.
Certains datent aussi loin que le 18e siècle.
Oui.
Alors ça, c'est vraiment magnifique quand on aime les trains, quand on aime découvrir. C'est extérieur et intérieur, deux grands gares.
Oh oui, je me rappelle bien de cette chronique-là, quand tu es revenu de ce grand musée ferroviaire là, du Canada.
Mm. Oui, c'est ça. Il y a même le REM, là, parce que ça a l'air que ça va prendre un bout de temps avant qu'on le voit. Mais là, on peut aller voir le wagon directement.
Oui.
On a le musée Pointe-à-Calière, l'exposition Viking est jusqu'au 10 octobre 2022.
Oui.
Je la recommande vraiment beaucoup.
On a encore quelques mois devant nous.
Oui. Mm-hmm. Et le lieu national historique du Fort Chambly, le site est magnifique, c'est sur les rives de l'Air Rapide, la rivière Richelieu.
Mm-hmm.
On parle des habitations aussi de la rue Richelieu juste à côté, elles sont vraiment splendides. Ça témoigne de l'histoire de la région. Il raconte un peu qui habitait là. C'était tous des officiers ou des ministres qui étaient dans ce coin-là.
Des officiers et des ministres?
Oui, c'est ça, des gouvernements à ce moment-là.
Oui.
Quand il y avait ça, alors que c'était vraiment bien.
OK.
On peut visiter le fort moyennant des frais. C'est un peu comme le fort George, là. Ça fait partie du même groupe.
Ah oui, j'ai pensé à ça quand j'ai vu Fort Chambly. Bon, mais tout de suite, j'ai pensé au fort George.
Ouais.
À côté de la chute de Niagara.
Exactement.
Voilà.
Alors, le fort Chambly, c'est un autre fort qui a été impliqué justement dans les conflits avec les Américains et tout.
Oui,
c'est quand même un gros moment d'histoire aussi.
Oui. Ça. Voilà. Et pour conclure?
J'aimerais te remercier de m'avoir donné cette opportunité-là, de participer comme chroniqueur à l'émission.
C'est les remerciements doivent venir de moi à toi, cette belle collaboration. Quelqu'un qui n'avait jamais fait de radio, qui vient remplir une année complète, une année entière de chroniques, de belles chroniques. Et du fond du cœur, je te dis merci d'avoir pris ce temps tous les mercredis du mois.
J'aimerais aussi remercier Catherine, qui m'a dans le fond, qui nous a mis en contact.
Oui.
Aussi Nicolas, Maurice.
Oui.
Aussi. Et je voudrais remercier aussi, merci spécial à ma copine Mylène.
Oui.
D'avoir trouvé un endroit différent à toutes les semaines, devoir explorer quelque chose de nouveau, pas pouvoir retourner où ce qu'on est déjà allé parce qu'on aimait ça, mais toujours à trouver une nouvelle activité à présenter.
Oui.
Elle a beaucoup participé avec moi à trouver les
elle
endroits.
Elle aussi, elle aime les sorties, le plein air.
Oui. Et elle est m'accompagnée dans toutes ces choses-là. Alors, je lui dis merci.
Merci, Mylène. Parce que, non, sincèrement, il faut le dire, parce que si tu t'es tombé sur quelqu'un, tu étais avec une personne qui n'aimait pas ce genre de choses.
Ouais.
Ça, ouais, il a la voix du rififi, là, comme on dit.
Effectivement.
Ouais. Il allait avoir du riff, ça allait siffler dans les oreilles. Est-ce que des choses comme ça qu'il faut éviter? Ouais. J'espère que tu as eu une belle expérience. Moi, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup adoré. Magnifique. Que ce soit que tu sois en studio ou bien que ce soit passé au téléphone. C'était toujours un plaisir de te voir et de t'entendre et de nous faire découvrir ces différents espaces, ces lieux magnifiques. J'ai toute une liste de toutes tes chroniques chez moi. Hein.
Ah
c'est
oui?
Que, je reviens en onde. Demain, c'est la dernière émission de la saison. Mm-hmm. Je reviens en onde le 6 septembre pour la saison d'hiver, d'automne. Et puis, y a de quoi visiter, quoi. Surtout que
beaucoup de choses à visiter.
Beaucoup de choses. Ouais. Peut-être que je vais aller jusqu'à Quaticook, je ne sais pas.
Oui. Moi, je compte y retourner pour profiter justement du pont suspendu parce que l'hiver, il est fermé.
Ah, il est beau. Ce pont-là, je l'adore. J'ai encore les images dans la tête.
Ouais.
Je suis passé une seule fois. Bon, il va falloir que je repasse une deuxième fois. Et puis, tout ce que tu nous as fait découvrir ici, moi, personnellement, j'étais toujours très surpris, ému, et puis j'adorais comment la manière dont tu transmettais les choses, et ça a permis aux auditeurs aussi de prendre du plaisir à t'écouter, de savoir quels sont les différents lieux qu'ils pouvaient découvrir à travers, pour ceux qui aiment le plein air, pour ceux qui aiment sortir, pour ceux qui aiment être dans la nature. Il y a des gens qui ont pris goût à tes chroniques, qui me demandent « Ah tiens, ce parc, je n'ai jamais entendu parler de ça, je vais aller le visiter. Mm-hmm. » Tu vois, c'était vraiment intéressant, quoi. D'ailleurs, donc, du fond du cœur, je te dis mille merci. Je t'envoie une corbeille de merci,
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de faire la chronique.
J'espère que tu vas revenir avec un autre thème. Ah oui, ça, tu me le laisses savoir. Uh-huh. On va en parler demain, d'ailleurs.
Ah ouais.
Oh, ouais. Et puis, au plaisir de te réentendre ici sur les ondes de Canal M avec peut-être d'autres sujets ou bien quelque chose comme ça de ce genre. Merci à toi du fond du cœur.
Merci beaucoup.
C'était un très grand plaisir.
Bonne fin de saison demain.
Merci.
Merci.
Spark will come my way. Come a little closer. Holding on, you will save the day. 'Cause you
C'est la Sioux, Hope a Little Harder. Voilà, avant de parler de... Donc j'ai quelques sujets pour terminer la première partie de l'émission. Je vais parler de la jeune, de la Tunisienne, Homs Jabeur. Voilà, qui vient de se prendre un autre trophée à Berlin. Oui. C'est parti. Là, je me suis dit... Non, ben, elle ne peut plus arrêter, là. C'est fini, là. C'est... À 27 ans, là, sa carrière commence. Oui. Elle n'a pas sa carrière à commencer, ça fait longtemps, mais c'est maintenant ce qu'elle est en train de se prendre des trophées comme ça, de monter sur le podium. Donc, victorieuse à Berlin le dimanche, la Tunisienne Homs Jabeur se hisse au troisième rang. Voilà, pour la première fois de sa carrière, au troisième rang. Il faut le dire, hein, pour une Africaine, c'est Nord-Africaine. La Tunisienne, donc, tandis que la Polonaise Iga Świątek demeure l'incontestable numéro 1 mondial. Oui, la Polonaise Iga reste confortablement, solidement bien installée au premier rang. Donc, la récente vainqueur de son deuxième grand, de son deuxième Roland-Garros, devance toujours l'Estonienne Anett Kontaveit au classement public. Et puis Świątek en tête de la hiérarchie depuis le... Départ à la retraite surprise de l'Australienne Ashleigh Barty, fin mars, compte plus de 4000 points d'avance sur sa plus proche poursuivante d'ailleurs. Donc derrière, en revanche, la Tunisienne, Homs Jabeur, victorieuse dimanche à Berlin, de son troisième titre en carrière, troisième, le deuxième de la saison après celui conquis à Madrid, se hisse au troisième rang et précède désormais l'Espagnole Paola Badoz. Bon, ça c'est quelque chose. Hein. Elle a 27 ans, hein, Jobin. Jabeur. Elle a 27 ans, c'est maintenant qu'elle est en train de rafler les, de monter sur le podium. Alors, quelquefois, on dit la patience, c'est un chemin d'or. C'est pas comme les autres qui ont commencé à 18 ans, montant sur le podium. Et puis après 2-3 ans, on les voit plus sur le podium. Voilà. Elle, c'est le contraire. C'est maintenant qu'elle est en train de rafler les trophées, là. Donc, bon, on va voir ce qui va se développer vers la fin de 2022. D'ici la fin de 2022, on est en plein milieu de 2022. Et puis en début de 2023, si elle gardera cette forme-là pour monter de plus en plus sur le podium. Et ça, c'est quelque chose que je me suis dit, voilà, ça, elle le mérite. Et puis, il faut le dire, avant Wimbledon. Et puis, il y a un documentaire qui avait été réalisé le 17 janvier 2021, d'une durée de 25 minutes par... qui a fait ce documentaire-là d'ailleurs? C'est Arnaud Bonin. Qui a été publié le 17 janvier 2021, une durée de 25 minutes, sur cette joueuse de tennis tunisienne. Ouais, voilà, allez-y sur le web là-bas, vous allez trouver ça, vous allez écouter, vous allez regarder. Sa vie en intimité, c'est ça, c'est le titre, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Jabeur en intimité, c'est ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle commence à rafler, à monter sur le podium comme ça à partir de l'âge de 27 ans. Oh oui, et là, elle a attendu de beaucoup, ça veut dire qu'elle a beaucoup appris, elle a beaucoup... Mais là, qu'est-ce qui se passe? Avant Wimbledon, il y a quelques petits tournois qui se passent là-bas en Angleterre, du côté de... à 87 km de Londres, si je ne me trompe pas. Là, c'est Serena Williams qui a reçu la wild card pour Wimbledon, a décidé de choisir Jabeur pour jouer en double à ce petit tournoi qui se passe actuellement en Angleterre aussi, avant Wimbledon. Alors, Jabeur, qui s'attendait pas du tout à ce qu'elle se retrouve un jour en double avec Serena Williams, c'est une légende. Et puis un exemple pour le sport, pour le tennis, je suis nerveuse de jouer avec elle. Non, il faut être content de jouer avec elle, il ne faut pas être nerveuse, Jabeur. Voilà. Faut pas être nerveuse, Jabeur. Voilà, faut pas être nerveuse avec son deuxième titre de la saison. Là, vraiment, tu te dis, voilà, j'étais là, 27 ans. Il y a Serena Williams qui me choisit pour jouer en double. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui m'arrive maintenant dans cette vie? Voilà, on se connaît pas vraiment. Et puis, de toutes les façons, c'est elle qui m'a choisi. Je voulais en parler à tout le monde, à ma famille. Non, j'ai préféré me taire, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit que je vais jouer en double avec, je n'ai pas dit contre. Je dis bien avec Serena Williams. Alors, mais tout le monde le sait maintenant parce que... Et elles ont gagné leur premier match. Elles ont gagné leur premier match. Intéressant. Ouais, ça va être quelque chose de... d'intéressant, ça va être Wimbledon cette année là, ça va bouger, ça va bousculer là-bas, ça va bousculer. Combien ils ont gagné d'ailleurs ce truc là, elles ont joué contre qui? Serena Williams avec la complicité des Jabeur, Hans Jabeur, elles ont battu Sarah Sorribes Tormo et Marie Bouzkova 2-6-6-3, 13-11. Un match qui a duré 1h33 minutes. Il fallait le faire. Les gens se sont dit, est-ce que Serena peut encore? Pas Serena a 40 ans hein. Ah, elle n'a plus 18 ans, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans. Là. C'est bien 40 ans, bien compté. C'est 40 piges, 40 printemps, comme on dit. Donc, oui. Mais j'ai vu le résumé du match. Ça bouge. Elle cogne encore comme d'habitude. On dirait même pas une femme de 40 ans. Ah oui, ah non. Ah, je me suis dit, alors, Jabeur va apprendre beaucoup de choses avec elle durant ce double qu'elle est en train de partager avec Serena Williams. Je lui ai dit bravo d'ailleurs et puis bon, belle continuation pour qu'elle puisse se retrouver là comme ça en, comment dirais-je, pourquoi pas la finale, l'une contre l'autre à Wimbledon. Allez.
Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Je voulais parler, on reste dans le domaine du sport, hein, parce qu'il y a le joueur de Liverpool d'origine sénégalaise, le Sénégalais Sadio Mané qui quitte Liverpool pour le Bayern de Munich. Voilà. Il part. Là, c'est fait. C'est aujourd'hui, là, c'est fait. Il y avait des rumeurs qui couraient par-ci, par-là, qui devaient partir parce qu'il était mal payé à Liverpool. Et puis, non seulement ça, les dirigeants de Liverpool n'ont pas assez de respect pour lui. Et je pense que c'est le coup qui va arriver d'ailleurs à Salah Mohamed Salah, l'Égyptien. Et parce que Liverpool n'a pas ce budget, ce gros budget, voilà, comme les autres équipes, comme le Barça, c'est Barcelone, comme le Real Madrid, comme Paris Saint-Germain, ou bien le Bayern de Munich. Je parle de soccer là, le foot pour les uns et soccer pour les autres. Alors, il s'est engagé avec le Bayern, c'est aujourd'hui là, tout est fait. Il a 30 ans, ouais, donc Liverpool a préféré investir dans les joueurs, dans les joueurs de... disons 18, 20, 23, 24, des jeunes qui peuvent exploiter parce qu'ils ne sont pas en mesure de vraiment payer les joueurs. Ils payent les... Et il y a des joueurs qui sont moins forts que Salah, Mohamed Salah et Sadio Mané qui touchent plus que ces deux joueurs-là. Et les gens ont commencé à se demander qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est quelque chose de voilé qui est là? Sadio Mané a dit, si vous voulez que je reste... J'aimerais avoir au moins minimum 400 000 par semaine. Non, ça n'a pas été possible d'obtenir cette somme-là. Oui, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est qualifié pour la Coupe du Monde, il est champion d'Afrique, le Sénégal, son pays d'origine. Il a 30 ans, il a envie quand même de préparer sa retraite. Combien de temps il peut jouer encore? Personne ne le sait. Si le physique fait avec... Il peut jouer jusqu'à 35. Voilà, 34, 35. Je sais que dans le football, dans le soccer, les gardiens de but jouent beaucoup plus longtemps. Voilà. Il y a des gardiens de but qui ont joué jusqu'à 40 ans. Mais un joueur de foot, milieu de terrain, buteur comme lui, je ne peux pas le voir en train d'aller jusqu'à 40 ans comme Serena Williams actuellement au tennis. Voilà, ça c'est autre chose. Alors je lui souhaite, le contrat est signé. Et, tout le monde s'attendait à ce qu'il aille au Barça, qu'il aille ou bien au Real de Madrid, ou bien à l'Olympique de Marseille. Non. Il va poursuivre sa carrière au Bayern de Munich, un club où il était annoncé par les médias allemands et britanniques depuis plusieurs semaines. Les rumeurs couraient, mais personne n'était sûr qu'il allait vraiment signer avec le Bayern. Parce que paraît-il que ce que le Bayern avait proposé à Liverpool pour qu'il laisse partir Mané, parce qu'il lui restait encore quelques mois à terminer, à jouer avec Liverpool, c'était pas vraiment ça, mais le Bayern s'est rendu compte que il avait affaire à du lourd. De toute façon, ils ont vu l'évolution de ce joueur dans le transfert. Les raisons de son départ, c'est ça aussi, ça, il faut le dire. Quand il a mis Et il a rejoint, quand il a rejoint en 2016, avec qui il a marqué, il a rejoint Liverpool en 2016, il a marqué 120 buts en 267 matchs. 120 buts en 267 matchs. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à le faire. Hein. Bayern, c'est un choix logique, c'est clair. Il aurait pu découvrir l'Allemagne beaucoup plus tôt, mais l'ex-joueur du FC Metz, il a joué à Metz, a longtemps été suivi par le Borussia Dortmund de Jürgen Klopp en 2012 et 2014. Au Bayern, le Sénégalais ne devait pas avoir de mal à s'adapter. Voilà, ça va aller de soi. Voilà. Il aime le club, il suivait le club depuis, au niveau de la culture germanique et de la langue aussi. Il va s'adapter. Voilà, quand on vit dans un pays, quand tu veux avoir des amis aussi, c'est pas le français et l'anglais qui va tout le temps parler là-bas. Donc à 30 ans, il va évoluer dans un club beaucoup plus reposant, considérant l'intensité des matchs de Liverpool. Ouais, c'est vrai qu'il ne dispute aucune rencontre facile et les autres exigences de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Je pense bien qu'il méritait beaucoup plus de respect, beaucoup plus d'argent, Liverpool, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. C'est, même si Liverpool était prêt à lui donner à doubler les 6,2 millions bruts annuels de Mané, ce dernier va décrocher le jackpot avec un salaire très largement supérieur avec le Bayern de Munich. Alors on termine comme ça la première partie de l'émission, tout doucement, ouais. Et restez toujours à l'écoute parce que j'ai une invitée en deuxième partie d'émission après la petite pause publicitaire qui vient nous parler du lancement de son deuxième album. Voilà, Rebecca Jean, auteure-compositrice, lancement de son deuxième album qui aura lieu au Lion d'Or le 29 juin. Voilà, cet album s'appelle Antidote. Voilà, vous allez écouter après la petite pause publicitaire avec mon invité Rebecca Jean.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Quelque part entre petits guaves et jacmel, mes branches ont poussé et parcouru la terre. Puis j'ai vu le jour sous un ciel d'hiver. Dans mon cœur, deux histoires se font la cour. Je vis au rythme des cuillères et des tambours. J'ai un héritage aux saveurs métissées.
J'ai un héritage. Ça, vous entendez la voix qui est là, c'est la personne à qui je vais parler juste après la petite pièce. C'est Rebecca Jean, c'est une pièce qui fait partie de son deuxième album Antidote, ce lancement qui aura lieu le 29 juin au Lion d'Or. Les absents auront tort, ça il faut le dire. Alors, je n'ai pas écouté les 12 pièces, j'ai écouté quelques pièces. J'adore, je vais le lui dire d'ailleurs. Bonjour Rebecca Jean.
Bonjour, et merci pour cet accueil.
Wow. J'adore ce que vous faites. Hein. Sincèrement, je suis même allé écouter les vieilles chansons il y a 4 ans, tout ça. J'ai dit, mais elle fait son petit bout de chemin.
Voilà, chaque chose en son temps. Mais vous savez, vous chantez bien quand même. Je pense que je vais vous prendre pour le 29. Là, pour
faire non. Rebecca. Alors, c'est bientôt là le 29, c'est bientôt. Comment ça s'est passé? C'est la pandémie qui vous a poussé pour aller de l'avant avec ce deuxième album, avec les confinements, il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus rien.
Exactement, au fait la pandémie nous a même un peu ralenti parce que normalement l'album devait sortir un peu juste avant
oui.
La pandémie.
Okay.
Et bon, on avait pris un peu de retard et là la pandémie arrive, bang. Okay. Alors tout est retardé, mais finalement, c'était un peu un mal pour un bien, dans le sens que on a pu peaufiner.
Oui.
Il y a une nouvelle chanson aussi qui a émergé de cette période-là.
Oui.
De pandémie. Alors, je sens que l'album est plus complet.
Oh ouais. Ok. Mais ça, c'est le côté positif de la pandémie. C'est ce que je disais. Il y a eu tellement de créations artistiques. Les artistes n'avaient plus de tournées. Il y avait plus de spectacles. Donc, ils avaient le temps de créer.
Exactement. Et c'était assez difficile comme moment, en tout cas c'était assez déstabilisant. Alors ça forçait un peu à aller à l'intérieur et se poser des questions. Du coup,
oui.
Quand on fait une introspection comme ça, ben souvent le résultat pour les artistes, c'est que ça donne un nouveau vent de fraîcheur à ses créations.
Oui, est-ce que Rebecca vient d'une famille d'artistes?
On peut dire d'une certaine manière, parce que ma mère, elle n'est pas dans la musique, mais elle fait de la haute couture.
Ok.
D'ailleurs, la plupart de mes tenues, je les dessine et c'est ma mère qui les confectionne.
Ah bon?
Ensuite, oui, absolument.
J'espère que vous la payez quand même.
On va parler hors onde. Non, oui, je la paye. C'est
si elle est, dites la vérité, si elle écoute l'émission, elle va dire qu'est-ce que
exactement.
Tu.
Elle ne saura pas où appeler pour rectifier de toute façon.
Ou bien c'est un arrangement entre maman et fille.
Non, mais je tiens à la payer, je la paye tout le temps. La valeur du travail, c'est quelque chose que je connais. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a inculqué.
Oui.
Mon jeune âge. Donc, je reconnais la valeur et je la paye tout le temps.
C'est une manière pour elle, de sa part, de supporter sa fille, quoi.
Absolument.
Ça lui fait plaisir.
Elle le ferait gratuitement, mais ça me fait plaisir aussi de
d'ajouter ça à mon budget. J'ai dit ça pour rigoler un peu avec vous. Voilà.
C'est très drôle. Et c'est bien de le mentionner, justement. Oui. Alors, à part ma mère, mon père jouait de l'accordéon.
Oui.
Et il avait une très belle voix.
Oui.
Et ma sœur jouait du piano. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. Elle jouait de l'orgue. Et mon père lui avait acheté un orgue. Et finalement, c'est moi qui jouais le plus souvent.
Ah non, mais cette question-là, je ne l'ai même pas dessus. Je ne l'ai même pas pensé. J'ai dit, mais il faut que je demande si elle vient d'une famille d'artistes. Parce que là, donc, vous venez d'une famille d'artistes. C'est toute la maman, la couture, papa. Ah non, tout est là, quoi. C'était, vous avez baigné là-dedans.
Oui, au fait, on a tous les deux côtés. C'est-à-dire un côté très, très carré et un côté très libre. Alors, du coup, c'est très utile pour moi parce qu'aujourd'hui, on s'entend qu'être artiste,
oui.
On ne peut pas seulement aller sur scène. Il faut savoir ce qui se passe à l'envers du décor. Il faut savoir se gérer soi-même.
Oui,
qu'on
oui.
a des gens pour nous aider.
Oui.
Alors, je suis contente d'avoir ces deux côtés-là.
Ok. Alors, quels sont les artistes qui vous ont accompagné sur ce deuxième album? Quels sont les gens que vous avez pu convaincre pour venir travailler avec vous qui ont participé à ce beau projet-là? Antidote.
Déjà, pour commencer, je ne voulais pas travailler seule parce qu'il m'arrive de faire de la réalisation seule,
oui.
comme j'ai fait pour l'album La trame sonore du film Vortex ou bien pour les albums de méditation. Donc, j'ai fait plusieurs choses seule pour la réalisation, mais cette fois...
On va en parler, on va en parler aussi.
Mmh. Ok. Mmh. Je voulais travailler en équipe, alors j'ai fait appel à mon ami et collègue de longue date, Vincent Choureau.
Oui.
Et on a co-réalisé cet album-là. Donc, j'étais très contente parce que Vincent a vraiment su saisir l'essence des maquettes que je lui ai envoyées pour les visualiser au sommet de leur potentiel.
Oui.
Et ça a donné un très beau résultat. Ensuite, comme artiste, bon, on va commencer par les musiciens.
Oui.
Les principaux musiciens qui m'accompagnent sont Hassan Sek, Moïse Yaoumaté.
Oui.
Et Yoel Diaz. Puis, on a une collaboration, c'est-à-dire un featuring.
Oui.
C'est l'artiste Kayiri. Donc, elle est violoniste et elle chante, elle fait du rap. Donc, sur cette chanson qu'elle a faite avec moi, elle a fait un rap sur la chanson.
Belle brochette d'artistes qui vous ont accompagné. Oui. Voilà. Merci. Je prends la balle au bon parce que vous avez parlé de certaines choses que vous avez faites aussi, composition, arrangement. Comment dirais-je? Vous avez un bagage pluridisciplinaire. Vous avez déjà donné plus de 130 spectacles, un album pop, une trame sonore de musique de film. Composition, interprétation, réalisation. Et trois albums de méditation. Composition, arrangement, interprétation, réalisation. Et trois trames sonores pour le théâtre. Composition, interprétation, réalisation. Deux narrations de films documentaires. Interprétation, enregistrement. Et un catalogue de 60 compositions à offrir.
Oui.
Un coffret de méditation guidée. Que signifie la méditation pour vous?
C'est ce qui me permet de me recentrer.
Oui.
Lorsque tout bouge autour. Vous voyez, comme la liste des choses que j'ai faites est quand même assez variée, assez longue. Ben, pour garder mon centre et ne pas m'éparpiller, c'est très important pour moi de prendre un moment pour me ressourcer,
oui.
pour me taire et écouter.
Mm-hmm.
C'est dans ces moments-là, justement, que je reçois mon inspiration.
Oui.
Et c'est ce qui me permet de pouvoir jongler entre les différentes choses que je fais.
Ouais. Waouh, c'est tellement bien, c'est tellement bien résumé, bien résumé. Ouais, ça me permet d'avoir une certaine sérénité, une zen, la zénitude, quoi, une certaine zénitude, une paix intérieure, comme on dit, qui vous permet de retrouver la force et de mettre les mots, prendre le crayon et de composer. Vous écrivez toutes vos pièces. Hein.
Oui, à l'exception sur l'album de la chanson Langue Lacaille, oui. Je l'ai écrite, mais la musique, c'est une... J'allais dire une reprise, mais c'est plutôt une adaptation de la langue de chez nous, Vive du Teil.
Ok.
Donc, j'ai fait une adaptation de cette très belle chanson oui. en créole.
Ah, ouais.
Alors, c'est moi qui l'ai écrite, mais c'est la musique de Vive du Teil. Mais c'est pour le reste...
C'est cette pièce-là, d'ailleurs, qu'on va écouter à la fin.
Ah, d'accord.
Oh oui.
il a beaucoup apprécié, il était vraiment content.
J'adore ça aussi, j'adore ça. Ouais, ouais. J'ai dit, mais il va falloir que je me déplace. Je vais voir le 29 si je n'ai pas déjà quelque chose. Oh, mon emploi du temps, peut-être que je vais venir.
Oh, mais j'espère bien, mais ce mercredi, j'ai fait exprès de mettre ça un mercredi, comme ça, il n'y a personne qui peut me dire « Ouais, mais c'est samedi, je ne peux pas, alors... »
Oh là là.
J'espère que vous serez des nôtres. En tout cas, je vous attendrai.
Et puis, c'est le début de l'été, il y a pas mal de gens qui sont déjà en vacances, hein, il faut le dire.
Exactement.
Oui.
La plupart ne sont pas encore partis à l'extérieur, donc... Je pense que c'est un très bon moment pour faire le lancement.
À qui Rebecca a fait écouter les 12 pièces de l'album en premier quand c'est sorti du studio?
À mon amie Mariana.
Oui.
Mon amie Mariana Gelobaldé qui a joué un rôle et qui joue un rôle très important dans ce projet parce qu'elle m'a vraiment assisté à plusieurs niveaux.
Oui.
Vous savez, sortir un album, c'est pas seulement faire la musique en studio. Il y a tellement de choses qui sont rattachées à ça. On pourrait même pas... Imaginez tant qu'on n'est pas dedans.
Oui.
Donc, c'est un peu ma conseillère aussi. Alors, chaque fois qu'on a des projets, on se fait écouter un peu nos trucs. Et donc, c'est elle qui l'a entendu en premier.
Oui.
Ensuite, j'ai fait écouter un peu... à qui j'ai fait écouter, au fait? Oui, j'ai quand même fait un petit comité. Il y avait 6 ou 7 personnes, un peu au hasard. Et je leur ai fait écouter pour voir, bon, ben, c'est laquelle votre chanson préférée? Il y a des chansons qui existaient déjà, que j'ai changées. Est-ce que vous aimez? Et en général, les gens aimaient beaucoup. C'est sûr qu'une chanson comme « Femme de la Terre », qui a déjà tourné un peu en radio, que les gens connaissent, sont habitués, là, je l'ai complètement métamorphosée en reggae.
Oui.
Alors, ça change vraiment, mais ça fait du bien. Après un moment, quand on chante toujours les mêmes chansons, on a besoin de se réinventer pour avoir soi-même envie de les présenter. Alors, l'ancienne version existe encore, mais je voulais un peu de nouveauté.
Oh oui, et puis moi, c'est ce que j'adore aussi dans votre style, c'est ce mélange de musique pop, alternative, racine aussi. C'est des rythmes métissés qui dépeignent bien la réalité de l'artiste. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes né ici au Québec, mais d'origine haïtienne. Voilà.
Exactement. Allez,
ce sont les parents, vous êtes québécois, un produit du Québec pur, là. Les parents sont d'origine haïtienne, mais...
Exactement. Mais bon, mon côté haïtien, quand même, de plus en plus est en train de ressortir. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est un album qui est tout simplement à l'image de ma réalité, parce que finalement, je suis quand même le résultat d'un mélange de deux cultures.
Oui.
Et
oui.
C'est vraiment important pour moi d'honorer les différents visages de mon identité dans cet album-là.
Parce que à la maison, même vous avez été beau québécoise, belle québécoise, beau québécoise dehors, quand vous arrivez à la maison devant papa et maman là, c'est un autre langage là.
Oui, c'est un autre langage. C'est un peu mélangé quand même.
Oui.
Parce que eux sont là. Bon, mon papa n'est plus là, mais ma mère est là depuis. Ça fait plus de 40 ans, au moins 45, ce que je raconte.
Oui.
Ça fait presque 50 ans que ma mère est au Québec, quand même. Donc, elle a pris quelques plis aussi.
Oui.
Et quand je vais en Haïti, ben c'est la même chose. On ne voit pas complètement comme une Haïtienne. On voit que j'ai déjà mon accent. Ça passe. C'est pas que ça passe pas, mais je peux pas me fondre dans le décor, ni avec mon accent.
Non. Ils reconnaissent tout ce que Rebecca n'est pas d'ici. Elle n'est pas avec nous ici.
Repérer tout de suite. Mais je suis toujours très bien accueillie et les gens sont souvent curieux justement de cette différence.
Oui. Un mélange audacieux de trad et de compas. Ouais, c'est fou, cette chanson aïbécoise. Là, quand j'ai vu le titre, j'ai dit, mais elle a osé. Les artistes sont capables de tout. Peut-être. moi, je peux pas me permettre de fabriquer un mot comme ça. Là, c'est pas possible. Comment l'idée vous est venue, Rebecca? Aïbécoise.
Eh bien, j'avais envie, jusqu'à maintenant, il m'est arrivé de démontrer mes deux côtés en faisant des adaptations de chansons en français en créole. Oui. Par exemple, la chanson d'Aznavour.
Oui.
Hier encore, ben, j'ai fait une version créole qui s'intitule « Gain des jours ».
Oui.
Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir une chanson qui parle même de ce phénomène-là,
oui.
C'est issu de deux cultures qui nous habitent, et de voir comment ça allait se présenter, et donc de faire un mélange même au niveau musical.
Oui.
On entend des cuillères, on entend des tambours, au niveau des paroles, faire des liens entre le fleuve, le plus long fleuve en Haïti, l'Artibonite,
oui.
Et le Saint-Laurent, de parler finalement de nos différences complémentaires et aussi de ce qui nous, de ce qui se ressemble en fait, de ce qu'on a de similaire.
Oui.
Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là, et puis je voulais une chanson qui donne envie de danser, parce que dans les deux cas, que ce soit mon côté haïtien ou mon côté québécois, dans les deux cas,
oui.
Les gens, on aime vivre, on aime s'amuser, on aime faire la fête, on est de bons vivants. Alors, je voulais une chanson qui reflète vraiment ça. Et je pense que ça a bien fonctionné.
Oui, ça a bien fonctionné. Bon. Et ça ne peut pas tomber mieux que ça. On est en plein début d'été, là. Ça, c'est tellement pour la saison, ça, il faut le dire. Et même l'autre, là aussi, qu'on va écouter aussi juste après la fin de notre conversation. Langue laquée, là aussi, j'adore. Et puis, là, j'adore les autres aussi, mais on ne pouvait pas passer plusieurs pièces. Et puis, donc, on invite le public à se présenter. Un dernier mot, là, pour, avant de vous laisser partir. Et puis, quand on se dit au revoir, en même temps, on met la... Nicolas va nous mettre la deuxième pièce, Langue laquée, là. Un dernier mot à nos auditeurs pour inviter les gens à aller pour le lancement. Est-ce qu'actuellement, vous n'avez pas encore mis ça sur les plateformes numériques? Vous attendez le lancement d'abord?
Oui, ça va sortir exactement le 29.
Le
même jour. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr que c'est bien d'avoir l'album numérique, mais c'est quelque chose d'encore plus spécial de se présenter au lancement, parce que on y met beaucoup de magie.
Oui.
C'est vraiment d'entrer dans un autre univers.
Oui.
Et il n'y a rien d'autre que d'être sur place qui peut vraiment l'expliquer. Alors je vous invite tous vraiment à venir. Il reste encore un peu de place.
Oui.
C'est au Lion d'Or, une très belle salle. L'acoustique est merveilleuse. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Toutes les infos sont seront sur mon site rebeccajean.ca,
oui.
Et aussi sur les médias sociaux.
Oui.
Donc Rebecca Jean sur Facebook et Rebecca _, je ne sais pas comment dire en français, Jean _ musique,
oui.
Sur Instagram.
Ok. Et puis bon, pour ceux qui ne savent pas, le Lion d'Or, c'est un local très intimiste.
Oui,
c'est très intimiste, voilà. Ça va bouger ce soir là. Voilà.
Ah, avec. Et on vous attend aussi. Hein,
voilà. je vais comme je voulais dire, Rebecca, je vais voir mon emploi du temps. Et puis bon, ben j'adore tellement ce que vous faites là, que merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Voilà.
Plaisir.
Et puis au plaisir de se retrouver avec ce. On m'a dit bienvenue dans le monde de la musique avec ce nouvel album Antidote. Dis-moi le titre là, comment le titre est... Avant de partir, dites-nous Antidote. Quel est ce médicament qui est là-dedans là?
Au fond, ce que je partage avec cet album,
oui.
C'est ma propre médecine, c'est-à-dire celle qui m'a aidé à passer à travers ces deux dernières années de folie, là.
Oui.
Et aussi à travers plusieurs épreuves de la vie. Donc, le but de l'album, c'est d'apporter vraiment un calme et un apaisement émotionnel à ceux qui l'écoutent.
La sérénité, la zénitude.
Exactement.
Comme on a dit.
Donc, on parle de plusieurs sujets qui peuvent à la base être un peu lourds,
oui.
Mais on y va de façon positive pour vraiment faire un voyage qui part de quelque chose de lourd, de dense, pour aller vers l'allègement.
Oui.
Alors c'est ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les chansons, au fond.
Merci beaucoup, Rebecca.
D'où le titre Antidote.
Antidote, oh oui. Merci beaucoup, Rebecca Jean, auteure, compositrice. Et je vous le répète, chers auditeurs, auditrices, elle fait son lancement le 29, c'est un mercredi, le 29 juin, de son deuxième album, Antidote, au Lion d'Or. C'est à partir de 19h. Ne ratez pas. Oui. Alors, un lancement d'album, c'est pas toute la soirée. allez-y l'encourager, allez-y prendre votre copie d'album. Même le même jour, l'album sera sur toutes les plateformes numériques à acheter, à télécharger. Merci beaucoup, Rebecca, et au plaisir.
Merci, Jean. À mercredi.
À mercredi. Bonne soirée.
Bonne soirée. Ouais.
Rebecca Jean, Langue Laquée. Voilà, là je vais parler un peu de littérature. Un nouveau livre que j'ai reçu, Raymond Lemieux, Écologie. Raymond Lemieux, c'est un journaliste scientifique. Hein. J'étais au lancement il y a quelques jours. Là. Voilà, c'est Écologie, une bataille sans fin. Voilà, contre la pollution. Oui, les amis de la Terre, pour une société écologique, vers la solution, halte aux pluies acides. Voilà, et puis c'est aux éditions Multimonde. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est les préoccupations écologiques de la protection. Voilà, les préoccupations. C'est une bataille sans fin. Hein. Les préoccupations écologiques et la protection de l'environnement s'imposent aujourd'hui comme un devoir civique fondamental. Des milliers d'archivistes, de scientifiques, de médecins et de juristes se sont ralliés à l'idée de penser globalement et d'agir localement pour la suite du monde. Au Québec, leurs engagements sont issus d'une prise de conscience née dès les années 1960, alors que des groupes citoyens lançaient les premières alertes à la pollution tout en osant remettre en question la société de consommation qui lui est associée. Ouais. Depuis, les défis que soulèvent les développements durables, les changements climatiques, ainsi que la protection des espèces et puis des espèces naturelles, ont rendu la bataille encore plus pertinente, voire permanente. Donc à partir de documents d'archives et d'entrevues exclusives avec des personnalités de premier plan dans le développement de l'écologie politique et sociale, l'auteur retrace l'évolution du mouvement écologique québécois et la persistance de ses enjeux. Raymond Lemieux d'ailleurs, et il faut que je finisse de lire, et puis avant la saison se termine demain, donc je ne pourrai pas l'avoir avant demain, ça c'est pas possible. J'ai déjà eu le livre, il faut que je... À la rentrée prochaine, bien, hein, Nicolas, on n'a pas 2 septembre, on va l'avoir ici. Pouvez-vous nous parler de... Voilà, de ce livre-là. Ouais, je peux... C'est tellement, tellement intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. C'est... Ouais. Je me suis dit, il faut que j'en parle comme ça rapidement. Avant de le recevoir, s'il a le temps, si son emploi du temps lui permet aussi, à la rentrée, quand on va revenir en septembre. L'esprit de la conservation, c'est ainsi que les êtres menus qui nous entourent contiennent des réserves d'énigmes. Parallèlement, ça c'est Pierre Morin-Cy qui dit, parallèlement l'écorce de l'arbre le plus humble est un univers où grouillent des multitudes. Nous qui vivons sur une écorce, ouais, hein, c'est bien ça. N'éditons pas l'écorce terrestre, nous devions être les premiers à le savoir. Je le conseille, ce livre-là, il est déjà en librairie. Hein, voilà. La première partie qui parle de cordes sensibles, dès les années 60, les scientifiques émettent des doutes sur le progrès à tout craint. L'industrialisation est-elle insidieusement en train de nous empoisonner? Oui. Sommes-nous en train d'abuser des ressources de la planète? De premiers groupes citoyens se forment et prennent fin et causent pour la protection de l'environnement et contre la pollution. Ce sont des sentinelles. Merci beaucoup à toi, Nicolas. On se retrouve demain pour... Alors, quand j'entends le jingle, pour moi, c'est fini. Hein? Alors, il y a 3 minutes, là. Allez, laisse-moi continuer. Encore 3 minutes, je peux continuer. Parler de ce livre, voilà, d'accord, merci. Alors, bon, c'est des choses comme ça qui sont dans ce livre-là. Hein? Ça fait... C'est pas une brique, hein? Ça se lit facilement, c'est... plus d'une centaine de... 224 pages. Bon, ça se lit facilement. Je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que c'est... Quand je commence à lui dire, waouh, intéressant. Oh, ouais. Un territoire fortement affecté. Si le Québec n'est pas un joueur déterminant au regard de la biodiversité planétaire, puisqu'il abrite entre 2 et 3 % des espèces vivantes du monde sur son territoire. Du monde, 2 et 3 %. Soit quelques 60 000 d'entre elles. Il reste très exposé aux variations causées par les changements climatiques. Entre 1970 et 2012, quelques 80 espèces ont migré de quelques 140 km vers le nord. Signale Dominique Bétreux, le professeur à l'Université du Québec à Rimouski. La migration des espèces du sud se poursuivra vers le nord et les espèces vivantes propres à notre nordidité vont en pâtir sérieusement. Les peuples autochtones qui fréquentent ces espèces aussi, à vrai dire, ce sont les 3/4 du territoire québécois, caractérisés par sa nordicité, qui seront fortement affectés. Voilà, j'ai encore une minute pour dire au revoir maintenant. Ouais, ça va venir, ça va tellement vite. Alors, merci à toi Nicolas. On se retrouve demain pour la dernière de la saison. Oh ouais. Je sais même pas de quoi je vais parler demain. C'est la dernière de la saison. Et voilà, on parle de tout. Et merci à Stéphane Baudry qui avait nous faire sa récapitulation de toutes les chroniques de l'année. Et merci à notre invité Rebecca Jean qui fait son lancement le 29, mercredi 29 juin au Lion d'Or pour son nouvel album Antidote. Ne ratez pas. Nicolas, tu es invité. Hein? Elle te l'a dit au téléphone. Voilà. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain pour la dernière de la saison. La dernière émission de la saison. Si vous prenez soin de vos minutes, voilà. Tendez la main à ceux qui sont dans le besoin. Oui. Sur ce, je vous dis ciao.